Mondoscopie, un magazine coproduit par RCF et Radio Vatican, présenté par David Milia.
Au moins 200 000 morts au Darfour. La communauté internationale se mobilise pour tenter de mettre fin aux violences dans une guerre civile aux accents occidentaux. Nous entendrons les propos peu politiquement corrects de l'un des plus grands spécialistes de la région. Il sera également question de la paix au Proche-Orient dans ce magazine. Les Israéliens ont voté cette semaine dans la peur et l'incertitude. Éclairage sur ces Israéliens qui disent non à la guerre, les Refouzniks. Et puis également au sommaire de ce Mondoscopie, l'affaire des moines de Tibérine. Il y a 10 ans, 7 religieux disparaissaient en Algérie. Aujourd'hui, l'enquête reste au point mort. Une accalmie au Darfour, beaucoup l'espèrent avec l'ouverture cette semaine du sommet arabe de Khartoum, la capitale du Soudan. La région occidentale du pays est en proie à de terribles violences depuis 3 ans, une guerre civile qui oppose les milices pro-gouvernementales et des rebelles indépendantistes. Le conflit a fait près de 200 000 morts et 2 millions de déplacés. Face à l'incapacité de l'Union africaine, l'ONU a décidé d'envoyer une force internationale sur le terrain, une intervention militaire qui n'est pas une solution, selon Sigmund Ostrowski, l'un des plus grands spécialistes du Soudan. Homme de terrain, il a rencontré les principaux protagonistes de la crise. Il met en cause les États-Unis et la France dans un conflit particulièrement complexe. Écoutez.
Il n'y aura jamais une chance de résoudre le problème avec une intervention militaire, ce que Bush le souhaite, par l'armée de l'ONU. Le SLM, il va rester certainement sur sa position pour obtenir leur part dans ce partage du pouvoir entre le Sud et le Nord, où ils étaient complètement écartés, et entre le partage de la richesse. De plus que récemment, on a retrouvé le pétrole et même l'uranium dans la région de Darfour. Un autre problème très important, le Soudan, c'est un pays au milieu de deux civilisations, africaines et arabes. Et du point de vue géopolitique, sa situation elle est très importante à cause de sa situation géographique. Au nord et au sud, et même à l'ouest et à l'est, il ne faut pas oublier, déjà depuis Fashoda, il y avait toujours une malentendue entre les grands forces françaises et anglaises, et aujourd'hui, le Tchad, qui est proche de la France, bien sûr, où la France a besoin, le Tchad, jouera un rôle considérable dans les problèmes du Darfour. Tant que le problème du Tchad ne sera pas associé au problème du Darfour, la situation, il me semble, ne peut pas être résolue par une action militaire.
Quel est le lien entre le Tchad et le Darfour?
Ils sont voisins, d'abord. Et les Sagawa et les Four et les Masalites, ils vivent à la frontière. Il y a une partie de leur famille d'un côté et de l'autre côté. Et puis la France, elle tient à une stabilité de la frontière soudano-tchadienne. Elle tient beaucoup pour qu'il soit une paix. Et il n'y aura pas une crise militaire dans la région du Darfour qui peut se développer au-delà de la frontière soudano-tchadienne. Pour la France, c'est très important d'avoir la paix et une stabilité de la frontière et résoudre le problème du Darfour entre le gouvernement du Soudan et les Darfouriens eux-mêmes, qui sont bien sûr ouverts de le résoudre. Ils sont tous musulmans et arabes. Ils sont seulement nomades ou sédentaires. Le problème, il faut résoudre d'une façon politique par les négociations. Ils ont abouti de le faire au Sud-Soudan. Ils peuvent le faire aussi au Darfour. Bien sûr, il faut l'appuyer, il faut le supporter. Il faut peut-être même intervenir d'une façon pas militaire, intervenir avec une autre moyenne et jamais avec une assistance, parce qu'une assistance a perturbé la vie de la population à l'avenir.
Mais sur place, sur le terrain, la population du Darfour vit très très mal.
Oui, très mal. comme au Sud-Soudan, il y avait deux intérêts. Ce n'est pas la guerre pour le peuple, c'est la guerre pour le pétrole, comme vous le savez, et plus spécialement pour l'eau. Le Nil, il passe dans la majorité de son parcours par le Soudan. L'Égypte, il vit de l'eau du Nil. Et le Nil, il est très, très important pour l'Égypte et le nord du Soudan, aussi avec toutes les branches du Nil, qui vient aussi bien de l'Éthiopie, de l'Est ou même de l'Ouest. Ça, c'est un problème. Mais l'essentiel, qui a l'intérêt au Soudan, qu'il était toujours oublié quand on n'a pas parlé du pétrole? Quelqu'un, une puissance ou plusieurs puissances, ils ont l'intérêt. Vous voyez, depuis quelques années qu'on a découvert le pétrole, il est presque en totalité exporté en Chine. On ne peut pas imaginer qu'une grande puissance comme les États-Unis accepte de ne pas avoir le contrôle sur le développement d'autres pays comme le Japon et plus spécialement sur la Chine, de la Chine. Je ne peux pas imaginer que les États-Unis acceptent de ne pas avoir le pouvoir de robinet du pétrole.
Donc pour vous, les États-Unis bloquent les négociations et préféreraient une solution militaire.
Il me semble qu'on proposait aux Nations Unies d'intervenir.
Pour au moins arrêter les combats.
Comment on peut arrêter le combat? Avez-vous pu imaginer d'arrêter le combat d'Hitler pendant la guerre, qu'il y avait le maquis? Si les gens sont dans le maquis, dans la brousse, dans la savane, on ne peut pas le supprimer. Je disais à Neymarie au début de la guerre, si vous voulez vraiment posséder le Sud-Soudan, vous pouvez le faire seulement par une bombe atomique, de supprimer les hommes ou avec la terre. On ne peut pas arrêter avec même 100 000 soldats. Vous avez vu en Irak, le problème n'est-il pas résolu? C'est au contraire. Alors, comment voulez-vous résoudre le problème au Darfour? De plus, qu'à côté, c'est le Tchad français. Très important. La France, sans le Tchad, aura le problème, des grands problèmes à cause de l'uranium qui vient du Tchad. D'autre part, le pétrole qui part maintenant à l'est par le port Soudan vers la Chine, Malaisie, il peut plus facilement venir vers les États-Unis qui ont besoin du pétrole de l'Afrique, de plus en plus. Et on peut imaginer qu'un oléoduc peut être construit de Bentiu via le Darfour, via le Tchad, vers le Cameroun, pour exporter le pétrole soudanais à l'ouest, dans les pays occidentaux.
Donc pour vous, ce sommet arabe ne va pas changer grand-chose pour le Darfour?
Non, il ne me semble pas. De plus, les opposantes, avec Hassan al-Turabi, qui est loin d'être proche aujourd'hui, pas encore, avec el-Bachir, il y a un mot à dire au Darfour. Sadiq, elle m'a dit, il y a aussi un mot à dire, même s'il y a affaibli, mais il y a toujours de force du nord du Soudan, que j'ai une influence au Darfour. Tant que le problème ne sera pas résolu à l'intérieur du Soudan, et tant que le Sud-Soudanais n'intervient pas eux-mêmes pour résoudre le problème du Darfour, il me semble c'est impossible de le faire avec une armée la plus importante du monde. Et j'ai parlé avec Garang avant sa mort plusieurs fois concernant le Darfour. Il était capable de résoudre le problème. Salva Kiir serait-il capable de le résoudre? A-t-il fait quelque chose depuis 6 mois au pouvoir? J'aime bien cet homme, il est un homme assez intelligent, militaire, au moins franc, très ouvert. Mais a-t-il la volonté d'intervenir? Le jeu, il est quelque part ailleurs.
Sigmund Ostrowski est notamment l'auteur de plusieurs ouvrages sur le Soudan, un des grands spécialistes du pays. Les Israéliens ont voté cette semaine. Des élections législatives marquées par la peur et l'incertitude. Alors que le Hamas a pris les rênes du gouvernement palestinien, Israël, de son côté, a intensifié sa politique d'occupation. Tsahal multiplie ses opérations militaires dans les territoires occupés. Les colonies poussent comme des champignons en Cisjordanie et le mur de séparation n'a jamais tant isolé la population palestinienne. Et pourtant, face à cette politique de terreur et de guerre, certains en Israël ont fait le choix de la paix et de la confiance. On les appelle les réfouzniks, des appelés qui refusent de servir l'armée en terre palestinienne. Dans un pays qui a toujours été en guerre, les objecteurs de conscience n'ont pas leur place. On les appelle donc des déserteurs. Et pourtant, ils sont bien la preuve que malgré tout, Palestiniens et Israéliens savent se comprendre. Écoutez Fabienne Messica, elle a consacré un livre à ces réfouzniks.
Ce sont donc des gens qui refusent de participer aux opérations militaires en territoire occupé. Un mouvement assez ancien, en fait, il a commencé même dès les années 50, avec quelques objecteurs de conscience qui avaient déjà compris que la politique guerrière, en tous les cas, ne mènerait pas à une solution entre les deux peuples. Donc ça a commencé très tôt avec quelques soldats qui ont refusé de faire l'armée, tout simplement, et qui ont donc été jugés, mis en prison. Donc ça a commencé donc avec 5-6 personnes au départ. Et puis ensuite, ça a pris vraiment une grande ampleur au moment de la guerre du Liban. Et puis ensuite, au moment de l'invasion israélienne, de la dernière agression, on va dire, israélienne.
Parce que quelle est la politique israélienne en matière de service militaire ?
Le service militaire est obligatoire, vous le savez, il dure 3 ans, un peu moins longtemps pour les filles, c'est 2 ans. L'action de conscience n'est pas reconnue en Israël. Et puis, il y a la réserve. Vous savez qu'en fait, les Israéliens appartiennent à l'armée toute leur vie, puisque une fois qu'ils ont fait l'armée, ils sont réservistes, donc ils peuvent être appelés à tout moment, et de toute façon, ils doivent faire 6 mois de service régulièrement.
Donc ces réfouzniks, eux, refusent d'aller sur le terrain.
Ils refusent de participer à des guerres qu'ils trouvent illégitimes. Donc ils refusent d'aller faire la police dans les territoires occupés parce qu'ils sont opposés à la politique qui est menée dans les territoires occupés. Donc à la politique de colonisation, l'implantation des colonies, la destruction des maisons, donc la politique de conquête.
Alors sociologiquement, qui sont-ils exactement ?
Ce sont souvent des gens alors très éduqués, si on veut donner un peu un profil. Très très souvent, ce sont des gens qui ont fait des études. Ils sont pas forcément issus de milieux de gauche. Des fois, ils ont des parents, au contraire, qui sont de droite. Ils sont vraiment, des fois, issus de familles militaires. Donc là-dessus, c'est très très varié dans le rapport à l'armée et dans l'histoire. Mais ce sont, en tous les cas, des gens qui sont nés en Israël, ce sont pas des nouveaux immigrants, ce sont des vrais Israéliens au sens où ils sont nés en Israël, ils ont été forgés par cette société-là, éduqués dans cette société-là, et leur attitude au départ est d'abord un point de vue moral. Hein. Après, ça peut devenir politique, selon certains militent dans des partis politiques ou dans des milieux politiques, mais majoritairement, le point de départ de leur engagement, c'est un point de départ moral. C'est un point de départ droit de l'homme, si vous voulez.
D'accord. Et ils sont religieux ? Ils peuvent être religieux également ou...
Alors, il y en a, mais pas beaucoup. Il y en a qui sont religieux. Il y en a qui avancent des arguments qui sont des arguments religieux.
Et que risquent-ils exactement ?
Ça dépend. Alors, s'ils sont objecteurs de conscience à l'armée, proprement dit, c'est-à-dire qu'à 18 ans, ils refusent d'y aller, quoi. Dans ce cas-là, ils risquent jusqu'à 3 ans de prison, c'est-à-dire tout le temps d'armée qu'ils auraient dû faire, ils risquent de le passer en prison. Et puis, si ce sont des réservistes, c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait l'armée, mais ils sont appelés donc pour la réserve, donc c'est 2 mois où ils peuvent être mis en prison, et en général, ils sont mis en prison.
Alors, est-ce que c'est une attitude qui est courante aujourd'hui ? Est-ce que c'est quelque chose qui est en progression avec les années ?
Il y a l'objection de conscience affirmée qui concerne actuellement à peu près 2000 objecteurs. 2000 objecteurs. Ce qui est nouveau, c'est que ce sont de plus en plus des jeunes, alors que jusqu'à présent, c'était la plupart du temps des réservistes, c'est-à-dire des gens qui avaient déjà fait leur service militaire. Aujourd'hui, Il y a de plus en plus de jeunes qui refusent de faire l'armée à 18 ans. Et donc ça, c'est perçu comme un mouvement beaucoup plus dangereux. Les sanctions sont de plus en plus dures. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est qu'il y a au moins 30% des Israéliens qui ne font pas l'armée, mais qui n'assument pas une objection de conscience affirmée, donc qui échappent à l'armée par des ruses, hein, en fait, hein, comme ça peut se faire ailleurs. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que l'attraction de l'armée n'est plus celle qu'elle était il y a 20 ans. Ce qui est certain aussi, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui n'est pas plus prête à se sacrifier pour le pays de la même manière.
Alors justement, quelle est votre analyse un peu sur la situation politique en ces jours d'élection en Israël, où on dit qu'il y a un fossé qui se creuse de plus en plus entre Israéliens et Palestiniens, peut-être pas tant que ça finalement, quand on regarde un peu de plus près, notamment avec cet exemple des réfouzniks.
Moi je pense que les Israéliens et les Palestiniens de toute façon sont dans une situation catastrophique. Alors les Palestiniens beaucoup plus évidemment. Mais les Israéliens ont conscience qu'ils s'acheminent vers une société qui va être une société de surveillance permanente des Palestiniens, de séparation totale avec les Palestiniens, avec un système où la citoyenneté, le rôle du citoyen sera de moins en moins important. Et donc, où finalement, ils vont confier la sécurité non plus aux citoyens comme ça a été le cas jusqu'à présent, mais sans doute à des, pas une armée professionnelle, mais presque, hein. On s'achemine vers ça. Donc c'est une transformation totale de la société israélienne. Ça veut dire que la cohésion de cette société est complètement en morceaux. De ce point de vue-là, ils traversent une crise comme les Palestiniens. Voilà, ce qu'ils ont de proche avec les Palestiniens, c'est qu'ils traversent une crise comme les Palestiniens. Ensuite, il y a un autre point, c'est que les nouvelles générations, contrairement aux anciennes générations, ont une conscience réelle de l'existence des Palestiniens et une certaine proximité. Je veux dire, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en lien avec les Palestiniens. Il y a des recherches, il y a tout un travail qui se fait avec les Palestiniens. Donc dans la réalité, on pourrait dire que s'il n'y avait pas la construction du mur, s'il n'y avait pas une politique qui était une politique de séparation et de guerre, la réalité des relations sociales entre Palestiniens et Israéliens est plus étroite, enfin l'interdépendance est beaucoup plus ressentie par les gens, beaucoup plus comprise que ça ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Alors du coup c'est complètement en contradiction avec une politique qui est une politique de l'unilatéralisme, hein, qui est la politique que propose en tous les cas un certain nombre de partis en Israël.
C'est pour ça que vous avez voulu écrire ce livre sur les réfouzniks. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ?
Ce qui m'a intéressé, c'est de pouvoir montrer qu'il pouvait y avoir une solidarité entre Israéliens et Palestiniens. Et dans l'expérience, tous ceux qui ont été objecteurs, qui sont objecteurs, du coup, se sont rapprochés des Palestiniens, ont des relations avec eux, parfois participent à des tas d'actions de défense des Palestiniens, qu'il s'agisse des prisonniers palestiniens ou de familles palestiniennes, se battent aussi pour une plus grande égalité au sein de la société israélienne. Donc ça a noué quand même quelque chose. Pour les Palestiniens, ça a été très très important en tous les cas. Pour eux, les objecteurs de conscience, c'est vraiment le symbole de quelque chose de possible avec les Israéliens. Moi, ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est de dire, alors, quelle va être aujourd'hui, enfin bon, tel que c'est parti, justement, tout ce que les mouvements de solidarité, dont les objecteurs de conscience, parce que c'est emblématique, ont ouvert de possibles, est en train de refermer avec le mur, avec cette politique unilatérale, avec l'absence totale de l'Europe sur ce terrain-là, avec la politique américaine qu'on connaît, qui est une sorte de politique de guerre permanente, finalement, la guerre permanente. Ça, c'est en train de se refermer et il y a une indifférence totale. On ne peut pas laisser ces peuples dans cette situation-là. Une situation de ghettoisation de part et d'autre, finalement. Chacun enfermé et encerclé, les Palestiniens, en plus, avec tous les problèmes de division au sein de leur territoire, d'impossibilité de mobilité, enfin de surveillance, d'oppression, l'oppression qu'ils subissent. Et ça, le silence de la communauté internationale, la passivité, l'absence de solidarité, vous savez, il faut aider les gens à s'en sortir.
Fabienne Messica, auteure de Refouznik israélien.
And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
C'était il y a 10 ans en Algérie. 7 moines de l'abbaye de Tibérine étaient enlevés. 2 mois plus tard, on découvrait leurs corps et leurs têtes décapitées. 7 religieux qui étaient pourtant respectés par la population locale. 10 ans après, on n'en sait pas beaucoup plus sur les raisons de ce massacre. L'enquête piétine et l'entourage des moines de Tibérine revendiquent un droit à la vérité, tant du côté algérien que français. Écoutez l'abbé Armand Veilleux, il était procureur général de l'ordre cistercien au moment des faits.
Il n'y a jamais eu aucune explication très claire donnée ni par un côté ni par l'autre. Donc aucune enquête avait été faite avant celle-ci, aucune du côté algérien sur les conditions précises de l'enlèvement, de la captivité et de la mort. Du côté français, nous savons par plusieurs publications qui ont été faites les dernières années qu'il y a eu des négociations, il y a eu des efforts faits par les services secrets français, les 2 services, la DST et la DGSE, pour essayer de sauver les moines. Les 2 services se sont court-circuités. Tout ça reste assez nébuleux. Tout le monde est un peu embarrassé. Et on ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui s'est pas fait, avec qui on a négocié, ou bien avec les islamistes, ou bien avec les services algériens. Et donc, au moins du côté français, on pourra s'attendre à plus de clarté.
Alors, mais justement, pourquoi tant de gêne, justement, à dévoiler un peu cette vérité, notamment côté français?
Ah, ça, nous ne le savons pas, hein, nous aimerions le savoir. Je tiens toujours à préciser que même si j'ai fait partie du groupe avec quelques membres d'une des familles qui ont demandé cette enquête, pour moi, l'élément important reste le message que nos frères ont donné à travers, non seulement à travers leur mort, mais d'abord à travers leur vie en Algérie. Et c'est précisément par souci de vérité avec ce qu'ils ont vécu. Ils ont toujours vécu dans un contexte de grande vérité, de grande limpidité au milieu de la population musulmane avec beaucoup de communion et d'amour. Et donc, il n'est pas normal que leur mort ne soit pas dans le même contexte de clarté, de vérité et de limpidité. Et l'une des raisons pour lesquelles nous avions demandé cette enquête était une solidarité avec les nombreuses familles de toutes les victimes algériennes. Nos frères étaient très solidaires avec le peuple algérien et donc dans leur mort, ils doivent être solidaires aussi avec toutes les victimes de ce drame qui dure depuis une 15aine d'années en Algérie. Alors, toutes les familles qui ne pouvaient pas savoir les circonstances dans lesquelles leurs frères ou leurs maris ou leurs amis étaient disparus, eh bien, que nous ayons osé demander d'ouvrir une enquête, les a encouragés à faire de même. Mais actuellement, il y a une nouvelle loi d'amnistie en Algérie qui amnistie tout le monde, les islamistes des pires crimes et aussi les forces de sécurité de tout ce qu'ils ont pu faire. Et alors, ça devient impossible pour tout Algérien, même pour les familles des disparus. Ils sont passibles de prison simplement pour demander la lumière. Alors, raison de plus pour que, en dehors d'Algérie, si on est encore capable d'essayer de faire la lumière, ben, c'est un devoir de la faire.
L'abbé Armand Veilleux, il était interrogé par Jean-Michel Petot. Voilà, c'est la fin de ce Mondoscopie, un magazine que vous pouvez retrouver sur internet sur le www.radiovaticana.org. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Pour le prochain Mondoscopie, vous retrouverez Bernard de Cotigny.